Chapitre 2. Organiser son intervention. Il existe en rhétorique autant de plans différents que d'occasions de discourir, une infinité. Sur cette question, comme sur bien d'autres, nous devons donc nous résoudre à travailler de manière schématique, en nous contentant de distinguer les grands types de plans, avec leurs forces et leurs faiblesses, plus ou moins adaptées à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais avant de les examiner méthodiquement, il nous faut brièvement évoquer la structure qui les sous-tend, les 6 étapes du discours. 1. Les 6 étapes du discours. Depuis Cicéron, on considère que tout discours doit être constitué de 6 parties. D'abord, l'exorde, où il nous faut introduire le propos, capter l'attention de l'auditoire et susciter sa bienveillance. Puis, la narration, pour exposer les faits, la situation ou le problème. La division, pour tracer les contours de la question, rappeler les points qui ont déjà été tranchés, écarter les éléments hors sujet et préciser ce qu'il reste à examiner. La confirmation, pour avancer les arguments et présenter les preuves. La réfutation, pour lever les objections qui ont été opposées. Et enfin, la péroraison, pour résumer le propos et le conclure avec élégance. Contrairement à ce qui est souvent écrit, ces 6 parties ne constituent pas un plan. Elles sont d'ailleurs, par nature, de taille très déséquilibrée. L'exorde, nous le verrons, peut parfaitement se condenser en quelques mots, de même que la division et la péroraison. À l'inverse, la confirmation constituera souvent tout le corps du discours, puisqu'elle renvoie au fond à l'exposé de notre ligne argumentative. De la même manière, l'ordre de ces parties n'est absolument pas gravé dans le marbre, à l'exception bien sûr de l'exorde qui commence notre intervention et de la péroraison qui la termine. Il arrivera même que nous choisissions de faire l'impasse sur l'une ou l'autre de ces étapes, la réfutation notamment, puisque nous avons vu qu'il n'était pas toujours habile de répondre aux objections avant même qu'elles ne soient explicitement soulevées. Voilà pourquoi nous ne pouvons en aucun cas nous borner, pour traiter de l'organisation du discours, à énumérer ces 6 étapes canoniques. Il nous faut encore montrer comment il est possible d'organiser concrètement entre eux les différents éléments de notre propos, arguments, exemples, informations. C'est à cela que nous allons nous atteler en distinguant 3 grands types de plans, logique, descriptif, narratif. 2. Les plans logiques. Commençons par la structure la plus classique, celle des plans logiques. Ce sont ceux auxquels tous les écoliers sont formés lorsqu'ils étudient l'exercice de la dissertation argumentée. Dans ce type de plan, nous présentons une réflexion construite méthodiquement. Les informations et les arguments s'enchaînent progressivement, étape après étape. Les différentes parties sont articulées entre elles par des inférences, c'est-à-dire des liens construits selon un raisonnement spécifique. Il existe ainsi plusieurs types de plans logiques correspondant aux différents types de raisonnements sur lesquels ils sont fondés. Nous nous bornerons à examiner les 4 plus courants, les plans analytiques, dialectiques, chronologiques et thématiques. Dans un plan analytique, notre pensée s'organise selon une logique linéaire. Chaque élément est la conséquence de ce qui précède et le fondement de ce qui suit. Les parties sont structurées comme autant de grandes étapes dans l'articulation d'un raisonnement global. L'incarnation la plus simple de ce plan analytique, c'est la structure problème, cause, conséquence, recommandation. Mais il en existe d'innombrables variantes, parfois plus subtiles, en fonction du sujet que nous avons à traiter. Lorsque, en conclusion, nous aboutissons à notre proposition, celle-ci apparaît comme la conséquence naturelle de ce que nous venons de développer. Dans un plan dialectique, notre pensée se construit sur une logique d'opposition. Elle suit un mouvement de balancier. Dans un premier temps, nous présentons notre thèse, qui constitue notre point de vue initial sur le sujet. Puis, nous la confrontons à son antithèse, qui permet d'en montrer les nuances, les limites, les points aveugles, voire les erreurs. Cela nous permet d'aboutir à la synthèse, dans laquelle nous présentons notre proposition finale, qui apparaît bien souvent comme le dépassement de l'opposition initiale. Dans un plan chronologique, notre pensée relève d'une logique temporelle. Elle suit l'écoulement naturel du temps. Après avoir identifié la période que nous considérons comme pertinente, nous la divisons en plusieurs grandes étapes qui correspondront à nos différentes parties. Tout l'enjeu de notre raisonnement sera de parvenir à restituer la cohérence des événements entre eux. Il ne faudra pas seulement nous contenter de montrer comment ils se sont déroulés, mais chercher à expliquer pourquoi. Cela doit naturellement nous amener, en conclusion, à formuler notre proposition, qui sera soit un jugement sur le passé, soit une recommandation pour le présent, soit une anticipation de l'avenir. Dans un plan thématique, enfin, notre pensée se structure selon une logique de classification. Nos différentes parties correspondent aux grands thèmes qui, mis bout à bout, donnent à voir le sujet dans sa globalité. Tout l'enjeu consiste alors à forger des catégories qui ne se recoupent pas, restent cohérentes et, ensemble, épuisent toute la complexité de la question. À partir de là, il nous restera à montrer en quoi ces différents thèmes nous permettent de dégager différentes conclusions qui, ensemble, convergent toutes vers une proposition unique. La force des plans logiques tient, on le voit, à la rigueur de leur construction. Ils sont parfaitement adaptés aux situations dans lesquelles il nous faut rendre compte de réflexions complexes et structurées. Mais cette rigueur vient avec un prix à payer. Tout d'abord, la construction d'un plan logique nécessite un soin tout particulier et suppose donc que nous disposions d'un temps de préparation suffisant. Par ailleurs, et c'est un point crucial, les plans logiques exigent que nous puissions présenter notre raisonnement dans son intégralité. Dans le cas contraire, notre proposition, qui en découle directement, se verrait amputée d'une grande partie de sa force de conviction. C'est pourquoi, lorsque nous choisissons d'avoir recours à un plan logique, nous devons nous assurer que l'environnement nous permettra de nous exprimer sereinement. Encore nous restera-t-il, bien sûr, à conserver l'attention de nos auditeurs jusqu'au bout de notre intervention. Le contexte ne fait pas tout, il nous faut également, ici peut-être plus qu'ailleurs, être bonne oratrice ou bon orateur. Suite de l'étude de cas. Je suis expert en éloquence et je prends la parole durant une journée de conférence au terme de laquelle j'espère bien réussir à vendre des formations. Mon idée directrice est la suivante. Tout le monde peut devenir oratrice ou orateur, il suffit d'apprendre à respecter quelques conseils simples. Option numéro 1. Je peux opter pour un plan analytique. Dans ce cas, je commence par constater que de nombreuses personnes ont peur de prendre la parole en public. Je m'interroge alors sur l'origine d'une crainte si répandue et montre qu'elle s'explique par le fait que l'oralité n'est pas enseignée durant le cursus scolaire. Or, vais-je ajouter, cette carence est dommageable dans une société comme la nôtre, qui repose de plus en plus sur la prise de parole en public. Il est donc essentiel de la combler par de la formation continue, et cela tombe bien, tout le monde peut devenir une bonne oratrice ou un bon orateur. Option numéro 2. Je peux opter pour un plan dialectique. Dans ce cas, je commence par présenter toutes les situations professionnelles et citoyennes dans lesquelles il est essentiel de maîtriser l'éloquence, et j'en conclus qu'il s'agit désormais d'une compétence incontournable. Mais je nuance immédiatement cette position en reconnaissant que, pour certaines personnes, s'exprimer en public constitue un véritable calvaire. J'explore donc les stratégies permettant de contourner ce traumatisme, développer ses compétences à l'écrit, investir le domaine numérique, se retrancher sur la visioconférence. Puis, dans un troisième temps, je dépasse cette opposition pour montrer que personne n'est condamné à ne pas savoir prendre la parole. Au contraire même, tout le monde peut devenir une bonne oratrice ou un bon orateur. Option numéro 3. Je peux opter pour un plan chronologique. Dans ce cas, je remonte jusqu'à l'époque de la royauté pour montrer que, durant des siècles, les individus ont rarement eu l'occasion de faire valoir leur point de vue en public. Puis, dans un deuxième temps, je m'intéresse à l'avènement de la démocratie, en mettant en lumière le fait qu'elle a redonné une importance cruciale à l'éloquence. Enfin, dans une dernière partie, je me concentre sur l'époque actuelle pour défendre l'idée qu'avec les réseaux sociaux, les nouvelles formes d'entrepreneuriat et les mécanismes de démocratie participative, l'art oratoire est devenu une compétence plus essentielle que jamais. Or, cela tombe bien, tout le monde peut devenir une bonne oratrice ou un bon orateur. Option numéro 4. Je peux opter pour un plan thématique. Dans ce cas, je commence par examiner l'importance de l'art oratoire dans la sphère politique et remarque qu'à l'heure de la démocratie, des mouvements sociaux et d'Internet, il est devenu crucial pour tous les citoyens de savoir prendre la parole. Je me tourne ensuite vers la sphère professionnelle et observe qu'entre les présentations, les entretiens, les formations, les réunions et les visioconférences, il y a de moins en moins de travailleurs qui peuvent se permettre de ne pas être éloquents. J'examine enfin la sphère personnelle et note que, entre les discours de mariage et les oraisons funèbres, nous aurons tous, un jour ou l'autre, à prononcer un discours. Où que l'on se tourne, nous sommes donc confrontés aujourd'hui à l'exigence de savoir parler en public. Or, cela tombe bien, tout le monde peut devenir une bonne oratrice ou un bon orateur. Décryptage. Comme nous le constatons, il est parfaitement possible de structurer une même prise de parole en utilisant de nombreux plans logiques différents. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'ils soient tous pertinents, ici et maintenant. En l'occurrence, le plan chronologique serait sans doute plus approprié dans un contexte intellectuel ou académique que dans une optique de vente, où la profondeur temporelle n'apporte pas grand-chose. Le plan dialectique, quant à lui, n'est probablement pas le mieux adapté à la question que nous avions à traiter, dans la mesure où celle-ci demeure assez peu sujette à controverse. En revanche, les plans analytiques et thématiques semblent bien fonctionner dans le contexte d'une conférence où nous cherchons à vendre une prestation. En tant qu'oratrice ou orateur, si nous choisissons de nous tourner vers un plan logique, il ne suffira donc pas d'élaborer une structure solide et cohérente. Il faudra aussi nous assurer qu'elle soit adaptée à la situation dans laquelle nous nous trouvons. 3. Le plan énumératif. Le deuxième type de plan est le plus simple de tous. Il s'agit du plan énumératif ou descriptif, comme on le lit parfois. Ici, nous n'allons plus nous soucier de bâtir progressivement, partie après partie, une pensée logique rigoureuse et méthodique. Au contraire, dans un souci d'efficacité, nous allons travailler par simple accumulation. Le plan énumératif aura donc toujours la même structure. Après une accroche, l'exorde, visant à capter l'attention de l'auditoire, nous présentons immédiatement notre idée directrice que nous assénons sans détour. Nous passons ensuite au corps de notre intervention, notre sélection des arguments les plus efficaces possibles que nous accolons les uns aux autres sans tergiversation. Pour chacun de ces arguments, nous essayons de trouver une formule percutante qui les condense, ainsi qu'un exemple marquant qui les illustre. Enfin, En guise de conclusion, nous répétons tout simplement notre idée directrice. Éclairée par le travail argumentatif que nous venons de produire, elle devrait en apparaître d'autant plus convaincante. En apparence, ce type de structure peut sembler se rapprocher du plan thématique, où les parties se succèdent sans linéarité. Il s'agit toutefois de deux organisations radicalement différentes. Dans le plan thématique, nous nous efforçons de diviser méthodiquement l'intervention en plusieurs parties qui, ensemble, couvrent notre sujet dans toute sa complexité. Au contraire, dans le plan énumératif, nous utilisons une structure très simple, où les arguments n'ont besoin d'être ni totalement exhaustifs, ni particulièrement articulés, ni même soigneusement ordonnés. C'est pourtant de cette simplicité que provient toute la force du plan énumératif. L'élégance y est sacrifiée sur l'autel de l'efficacité. Nos auditeurs sont immédiatement exposés à notre proposition forte, nous permettant de capter dès à présent leur attention. La clarté de notre plan le rend facile à suivre, nous garantissant que personne ne s'égare en chemin. La conclusion rappelle l'objet du discours, nous assurant que notre message soit bien intégré. Il s'agit ainsi d'une structure adaptée au contexte dans lequel nous devons marquer les esprits en un temps très court. Par ailleurs, le plan énumératif a ceci de commode qu'il suffit de quelques minutes, quelques secondes même, pour le griffonner sur un coin de papier. Il est donc un outil précieux dans les circonstances où il nous faut prendre la parole au débotté. Enfin, le plan énumératif a pour avantage d'être très flexible au point de pouvoir être modifié en cours de route. En cela, c'est une solution appropriée si nous ne savons pas à l'avance quels seront le cadre et la durée de notre prise de parole. Nous n'aurons, le cas échéant, qu'à retrancher ou rajouter un argument pour raccourcir ou rallonger notre intervention. Prise de parole en réunion, présentation au format pitch, vidéo ou texte diffusé sur les réseaux sociaux, voilà quelques-unes des nombreuses situations dans lesquelles cette structure s'illustre tout particulièrement. Bien sûr, le plan énumératif rencontre également d'importantes limites. Son organisation rudimentaire en fait un outil mal adapté au sujet complexe qui nécessite une argumentation fine et structurée. Il risque également d'être peu approprié dans les situations où nous devons déployer une intervention longue. Passé l'efficacité des premières minutes, nous courons le risque de sombrer progressivement dans la monotonie d'un discours dévitalisé, sans relief ni âme, là où, au contraire, un plan plus complexe aurait permis de conserver l'attention. Suite de l'étude de cas, option numéro 5. Si je ne dispose que de quelques minutes pour mon intervention, sans doute ai-je intérêt à adopter un plan énumératif. Mon introduction pourra alors ressembler à cela. C'est dur de prendre la parole, n'est-ce pas ? Saviez-vous qu'il y a de nombreuses personnes pour qui la peur de parler en public est plus intense que la peur de la mort ? Et pourtant, cela n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que tout le monde peut devenir une bonne oratrice ou un bon orateur. C'est même très simple, il vous suffit d'apprendre à maîtriser quelques grands principes que je vais brièvement vous présenter. Premièrement, j'énumère ensuite mes conseils les uns après les autres, en les enrichissant chaque fois d'une formule forte et d'un exemple mémorable. Mon argumentation comporte 5 points, mais je sais que si le présentateur me fait signe de m'arrêter avant la fin, ce ne sera pas un drame. Même incomplète, mon intervention resterait efficace. En conclusion, je me contente de reprendre l'idée directrice. Vous le voyez, ces conseils sont très simples. Avec de l'entraînement, tout le monde peut les maîtriser. Chacune et chacun d'entre vous, ici, peut apprendre à parler en public. Il suffit de vous en donner les moyens.